Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 3 du podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac. Bonjour Nico, comment vas-tu ?
Écoute, ça va bien, j'ai l'air un peu moins fatigué que toi.
Oui, un petit coup de froid qui est passé par là.
Ouais, ça, c'est, d'ailleurs, c'est pour les coulisses, je pense que c'est la première fois qu'on enregistre aussi peu de temps sur autant de temps en fait finalement.
C'est ça.
On a mis beaucoup de temps à l'enregistrer cet épisode.
C'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps à l'enregistrer.
C'est la reprise pour nous aussi.
On est en rodage.
On est comme l'équipe.
C'est ça. Il y a eu que 6 matchs. Il y a des choses qui sont bonnes. Il y a des choses à améliorer. Vous pouvez nous le dire d'ailleurs en commentaire sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez nous faire un débrief, les choses bien qu'ils ont dit et les choses moins bien. Voilà, on est à l'écoute.
Et en parlant de débrief, merci beaucoup pour tous vos retours sur les deux interviews qu'on a sorties avec Elliot Berton et Tanner Richard. En les enregistrant, on savait que ça allait être des interviews de qualité, mais voilà, ils vous ont plu. Et tant mieux, on a eu de la chance. On peut le dire.
On a eu vraiment deux bons clients pour les interviews. Et puis, comme tu l'as dit, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Pas forcément pour notre ego, c'est pas la question, mais
pour
le tien, manifestement. Non, mais on n'a pas besoin d'avoir des messages de tout le monde qui dit c'est génial ce que vous faites, mais de temps en temps, d'avoir un retour, même si c'est pour nous dire des choses qu'on fait moins bien ou autre, c'est toujours, on le prend toujours parce qu'on cherche aussi à s'améliorer. Donc, on est très à l'écoute.
Et donc, sur cet épisode, on est très à l'écoute de la situation du Genève Servette après 6 matchs.
Voilà, on va essayer de faire un petit bilan. Enfin, bilan, c'est un bien grand mot après 6 matchs. D'ailleurs, on le répète, on parle seulement après 6 matchs. Mais il y a des choses qu'on a aimées, des choses qu'on a un petit peu moins aimées lors de ce début de saison. Donc, on va essayer d'en parler durant une bonne vingtaine de minutes.
Oui, c'est ça, un tout petit peu plus. Donc, dans ces moments-là, ce qu'on dit, c'est installez-vous confortablement. C'est parti ! Oh, oh, oh. La question est la suivante, Nico, est-ce que Genève Servette, après 6 matchs, fait un début de saison parfait ?
Non.
Très bien. Merci Nico.
Je t'en prie, moi, c'est avec clair. Plaisir.
Pas de saison parfaite donc pour toi du côté de Genève Servette, qui est pourtant premier au classement.
Qui est premier au classement, on a vu des très bonnes choses, mais on en a aussi vu des moins bonnes, ce qui fait dire que les choses vont bien, mais est-ce que les choses sont parfaites ? Non, après, là, les choses ne sont jamais parfaites, certes. Mais pour l'instant, on voit qu'après 6 matchs, il y a encore une période de rodage et c'est tout à fait normal.
Ouais, on va mettre un petit disclaimer avant de détailler ces points. Évidemment qu'on sait que la saison n'est vieille que de 6 matchs, qu'il y en a 52 en saison régulière, qu'il y a les play-offs. Mais voilà, on fait le point sur ce qu'on a vu et la vérité d'hier n'est pas celle de demain. Donc on va vraiment, on va vraiment aborder ce qu'on a vu sur les 6 premiers matchs. Et notamment, si on doit commencer par plutôt les points négatifs, comme ça on termine par les bonnes nouvelles, c'est plus agréable. Nico, le premier point pour toi négatif sur ce début de saison ? Ou le point à travailler, si on veut parler de manière plus pédagogique.
Je dirais que c'est l'inconstance. Alors, je vais m'expliquer un petit peu sur... On avait peur au début de saison, je crois qu'on en avait parlé, je ne sais plus si c'est directement dans le podcast ou si c'est hors dehors ou des discussions qu'on a pu avoir. On savait que cette équipe serait capable de nous émerveiller par moments et de nous agacer un petit peu par d'autres, par suffisance, par je ne sais quoi. Mais on savait qu'il y aurait des moments comme ça. On avait parlé de ça avec Linus Omark aussi. On savait qu'il pourrait être... très très haut par moment et très très bas par d'autres. On n'a pas encore vu les très très bas cette saison, entre nous soit dit. On a vu plutôt le haut, parenthèse de marque refermée. Avec l'équipe, on savait que ça pourrait être pareil. On a vu des vraiment très bons moments de la saison, notamment le match Azou qui est, alors j'allais dire une démonstration de hockey, c'est peut-être un peu fort, mais qui est vraiment un match référence très tôt dans la saison.
Une démonstration de simplicité. En fait.
Ouais, exactement, qui suivait un match qu'il était beaucoup moins à Vienne, où là on avait senti justement ce côté... suffisant, ce côté, comme Yann Cadieu l'a dit dans les journaux, tout le monde veut faire son petit sketch de son côté et pense pas à l'équipe. Donc on a vu en l'espace de deux matchs, et ça s'est répété aussi par la suite, ce côté extrêmement talentueux au service de l'équipe et ce côté extrêmement talentueux au détriment de l'équipe. Et je pense que c'est une chose avec laquelle on va devoir vivre toute la saison.
Oui, inconstance, et je te rejoins sur le fait de l'inconstance, et moi ce qui m'inquiète aussi, c'est les matchs qui sont très inconstants de par le système de jeu. On voit que Genève Servette, quand ils affrontent une équipe qui est très basse dans sa zone, comme c'était le cas pour Bienne, comme c'était le cas pour Langnau, Genève Servette a beaucoup plus de peine, et à ce moment-là, tout le monde veut essayer d'être le héros de l'équipe, et j'ai un peu peur que les matchs soient inconstants en fonction de l'adversaire et que tous les adversaires comprennent au fur et à mesure qu'à l'inverse de Zoug qui était venu chercher Genève Servette très haut et qui donc avait ouvert énormément d'espace, les adversaires comprennent qu'en attendant Genève Servette dans sa zone défensive, eh bien les Grenats sont coincés. Et là, il y a cette notion d'inconstance, mais voilà, on est de nouveau, on le redit, on va arrêter de se justifier après. On est qu'après 6 matchs et les choses peuvent encore être adaptées.
Ouais, il y a plein de choses qui vont être encore adaptées. On sait, il y a eu pas mal de changements quand même dans l'équipe, même s'il n'y a pas eu énormément de transferts, mais il y a quand même des choses qui doivent se mettre en place, des automatismes qui doivent se trouver. Encore une fois, 6 matchs, 14 points pour une équipe qui se cherche encore, c'est plus que correct. Mais on a vu par moments, le match à Ambry, les deux premiers tiers, c'était quand même vraiment compliqué. Le match d'hier soir, vu qu'on enregistre mercredi, le match d'hier soir face à Langnau, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un match aussi mauvais, j'ai l'impression. Ouais, je ne me rappelle pas tous, mais hier, c'était quand même vraiment, vraiment très, très mauvais. Et le, on va dire, comme tu aimes bien l'appeler, toi, un peu le baromètre de l'équipe, le Henrik Temerlens, qui d'habitude a un niveau qui est toujours, et c'est pas à ce micro qu'on l'a pas assez dit, on va dire, hein, qui est toujours un niveau stratosphérique. Hier soir, Temerlens, à un moment, je l'ai dit au commentaire, mais je me suis demandé s'il n'était pas bourré.
Oui, ouais, c'est une action où le puck retombe à côté de lui, puis il le cherche un
c'est
peu.
C'est ça, et on peut pas nous reprocher d'être critique envers Temerlens qu'on considère à peu près au même niveau que Dieu, ou pas loin, disons. mais c'est vrai que sur le match d'hier, c'était catastrophique. Alors après, il a le droit à ses matchs, il a le droit à ses matchs ratés de temps en temps aussi. Hein. On va pas le blâmer pour ça. Mais disons qu'on a vu vraiment, j'ai l'impression, on a déjà vu les deux extrêmes de cette saison. Le match à Zug étant l'extrême positif et le match face à Langnau étant l'extrême négatif. Et comme je l'ai dit, ouais, on risque de toujours naviguer un petit peu là au milieu, enfin, dans ces deux extrêmes-là. Et ça peut poser certains problèmes face, comme tu l'as dit, à des équipes qui vont pas se contenter d'attaquer plutôt. L'avantage, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui vont vouloir jouer, parce que Zurich, parce que Zug, parce que même Fribourg, c'est des équipes, Davos, c'est des équipes qui ont toujours été plutôt portées vers l'offensive. Donc, c'est des équipes qui pourraient mieux convenir à Genève Servette. Maintenant, il va falloir trouver la solution face à des équipes qui cherchent manifestement pas à produire du jeu offensif, pas trop en tout cas.
Oui, parce qu'effectivement, hein, tu as parlé de Zurich, tu as parlé de Zug, mais il y a des matchs aussi contre Ajoie. On se rappelle que l'année dernière, Genève Servette est l'équipe qui a donné le plus de points par match à Ajoie. Il y a Kloten qui arrive, qui visiblement est dans la même situation qu'Ajoie l'année dernière, mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour Genève Servette? Je pense que cette année, on a eu, sur ces six premiers matchs, on a aussi eu un bon aperçu de tout ce qu'on va avoir sur Genève Servette cette saison. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, très bas, ou du moins des matchs qui sont vraiment médiocres. Et là, je parle même pas du match contre Langnau, mais plutôt du match contre Bienne, où Genève Servette est vraiment coincé, n'arrive pas à approcher le gardien adverse. Et des matchs qui seront excellents sera face à Zug. Et j'ai aussi un peu peur, mais ça rejoint la question de la gestion des égos et puis de la motivation de l'équipe, que l'équipe se motive que contre les grosses affiches, parce que finalement, contre Zug, bah voilà, ça a bien été 5-2, c'est le double champion en titre. Par contre, quand c'est Langnau et que tout le monde s'attend à un festival offensif de 8-9 buts, Genève Servette a un peu plus de peine et doit attendre les dernières minutes pour inscrire le troisième et le 4e dans la cage vide. Donc je pense qu'on a vraiment vu tout ce qu'on va voir de Genève Servette cette saison. On a eu un très bon échantillon maintenant, et maintenant il va falloir essayer, comme tu l'as dit, de garder le bon, le moins bon, d'extraire le mauvais, et s'attendre aussi à ce que Genève Servette, qu'importe l'équipe, va pas pouvoir non plus gagner les 46 matchs qui restent.
Ouais, exact. Et puis dans les choses qu'il va falloir corriger rapidement aussi pour que la saison se déroule dans la meilleure des façons, c'est les situations spéciales. Pour l'instant, Genève Servette a le 7e power play avec 15% d'efficacité, c'est clairement pas assez. À le 9e boxplay de la Ligue avec un peu moins de 85%, un peu plus de 80% de réussite en boxplay. Alors 80% en boxplay, c'est au minimum ce qu'on attend en principe, en 80-20, hein, avec le powerplay à 20 et le boxplay à 80. Mais clairement, on l'a vu aussi hier soir, le powerplay n'est pas encore au point. Pourtant, c'est pas faute de talent, hein, ça c'est clairement pas ce qui manque, mais il y a quelque chose qui fonctionne encore pas. Hier, il y a eu 4 ou 5 possibilités à 5 contre 4. Il y a eu 2 fois où on a pris un but, dont un qui a été annulé. Salutation d'ailleurs à Kevin Houlvé qui a demandé un coach challenge. J'en ai parlé un petit moment avec lui, en petite parenthèse. Oui. Il n'était pas 100% sûr. Il avait le feeling que oui, mais il s'est dit si on l'attend pas maintenant, on l'attendra jamais. Ouais. Du coup, le coach challenge a été validé.
Bah, pour la running gag avec Kevin Houlvet, on le charrie souvent parce que les coach challenge qu'il a pris étaient ratés. Puis là, tout le monde l'a applaudi hier.
Ouais, il était content et je pense que tout le monde a dû le remercier à la fin parce que c'est voilà, le match aurait peut-être tourné différemment. Mais pour revenir sur les situations spéciales, on voit qu'il y a encore des choses qui doivent progresser. Et le power play à 15%, c'est quelque chose qui doit absolument augmenter dans les matchs à venir.
Ouais, moi, ce qui m'énerve un peu avec le power play de Genève Servette, c'est que ça bouge beaucoup, mais ça va toujours chercher des shoots soit sur les côtés, typiquement Linus Omar, son premier but contre Davos, c'est un missile, il est sur la droite de l'attaque genevoise, mais autrement on va beaucoup chercher les côtés, on va vraiment chercher ses tirs sur les ailes, et c'est à partir d'aller quand il reste 45 secondes, on se dit il faut quand même qu'on fasse quelque chose, et alors là ça revient toujours sur Temerlens ou Vatanen qui est à la bleue, et on shoot, et j'ai l'impression qu'on va très peu chercher cette passe devant le but, ou alors quand Genève Servette le fait, c'est presque trop tard. Et puis, typiquement, alors on a beaucoup le match de Langnau en tête, mais hier, Genève Servette a essayé de porter le danger devant le but. Ça a été contré, ça partit dans l'autre sens et ça a là à égaliser à deux partout. Donc voilà, Genève Servette, tout saute un peu en powerplay. Et surtout, tu as parlé du talent sur la glace. Moi, je m'attends à un peu plus de jeu collectif et vraiment aller chercher ces petites passes et arrêter d'aller chercher les passes entre guillemets faciles. Après, c'est toujours plus simple quand on est assis dans un studio et qu'on débriefe un match durant lequel on a juste été assis à commenter la rencontre.
C'est sûr. Et puis, encore une fois, à 6 matchs, donc c'est le powerplay, c'est aussi quelque chose qui va gentiment prendre au fur et à mesure. Il faut que les joueurs apprennent à se trouver sur la glace, etc. Mais voilà, on l'a dit au début de l'épisode, le but c'est pas, d'ailleurs on va aussi rapidement passer au point positif, hein, mais le but c'est pas de taper pour dire il y a rien qui fonctionne, c'est simplement de dire il y a beaucoup de choses qui vont bien, mais voilà, il y a encore des pistes d'amélioration et c'est plutôt positif de se dire qu'en étant en tête du championnat, Jean-Yves Servette a encore une belle marge de progression devant lui. Donc, les choses devraient...
Oui, puis on a fait un huitième du championnat, donc on a encore de la marge.
Il y a encore beaucoup, beaucoup de marge et on le sait, hein, c'est pas faute de le répéter chaque année. Le moment où il faut être en forme, ça sera aux alentours de fin mars.
C'est ça.
Avant,
parce que c'est 4 mars, la fin de la saison.
Oui, pardon, 4 mars. Avant, c'est pas 52 matchs qui servent à rien, mais disons que le moment où il faut être en forme... C'est en mars, d'avoir tout qui fonctionne maintenant. Aller demander à Bienne, qui commence chaque année sa saison par 8-10 victoires sur les 15 premiers matchs ou 12 premiers matchs. Puis après, finalement, ils ont une fin de saison souvent assez compliquée. Donc rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Oui, il y a une statistique que j'aime beaucoup, qui est la statistique du PDO, hein, comme on appelle le puck luck. En gros, on peut parler un peu de chance. On additionne le pourcentage d'arrêt des gardiens de l'équipe, on additionne le taux de réussite au shoot, et puis ça donne une moyenne. On se dit qu'entre 98 et 102%, on a une équipe qui est dans la norme. Au-dessus de 102, elle surperforme. En dessous de 102, elle sous-performe. Et ce qui est bien avec Genève Servette, qui sont à 100.86, ce qui veut dire que Genève Servette, bah voilà, tourne nickel. Au moins sur ce début de saison, c'est aussi une consolation. On se dit pas que l'équipe sous-performe, parce que qu'est-ce que ce serait si l'équipe sous-performerait, et surtout elle surperforme pas, ce qui veut dire qu'en gros là on a vraiment atteint la moyenne, et si ça c'est Genève Servette moyen, vivement Genève Servette en forme.
Ouais, exact.
Et pour les points, je pense qu'on peut enchaîner sur les points positifs, parce que Genève Servette est quand même premier du classement. Certes, il y a eu 2 victoires positives contre Ambry et contre Langnau. Chaque fois, ça vient d'un exploit individuel. Hein. Contre Ambry, c'est Thomas qui égalise. Et puis contre Langnau, c'est Vatanen qui va servir Timo Hartikainen sur un plateau en argent. Mais les points positifs, moi, il y en a un qui c'est pas forcément le premier que j'aurais cité, mais j'ai envie de le dire maintenant, c'est que Genève Servette est l'équipe qui a gagné le plus d'engagement. Et ça, mine de rien, c'est bête, mais quand on a le puck, on évite de courir après le puck.
Ah oui.
Voilà, et même de patiner.
Après. Non, mais voilà. Après, j'ai envie de dire, vu la colonne de centre qui est celle de Genève Servette cette saison, on s'y attendait un peu, mais après, entre les attentes qu'on a et la réalité, il y a souvent un monde. Et là, effectivement, le fait de savoir qu'avec cette ligne de centre-là, finalement, on fait ce qu'on lui demande à cette ligne de centre, c'est-à-dire gagner ses engagements, c'est positif. Et oui, évidemment, c'est aussi une phrase qui ressort de plus en plus. Là, gagner ses engagements, c'est avoir le puck, évidemment. Et en plus, on va dire que. Alors. Aucune équipe va dire qu'elle n'a pas envie de gagner des engagements, hein, c'est évident. Mais une équipe comme Langnau, elle ne cherche pas forcément à avoir le puck. Genève Servette, c'est une équipe qui doit avoir le puck. Ce n'est pas une équipe qui va jouer en contre, c'est une équipe qui veut porter le puck. Et du coup, en gagnant ce puck, on économise quelques forces dans la récupération de ce puck. Et du coup, on peut construire notre jeu tout de suite. Et oui, c'est hyper important de gagner ses engagements. Mais 57%. C'est vrai qu'avec Joris, Richard, notamment, qui sont des spécialistes quand même des engagements, on se donne quand même, Genève Servette, c'est de donner les moyens d'avoir le puck et de gagner ses engagements. Et c'est très, très positif.
Et tu as parlé, tu as cité un nom qui, pour moi, est le gros point positif de ce début de saison, c'est Josh Joris, qui est juste. Qui est en quatrième ligne. Benjamin Antonetti le disait lui-même après le match à Ambry, c'est un luxe d'avoir Josh Joris en centre de quatrième ligne. Je pense qu'on en parlait à la prise d'antenne du match contre Langnau, que si Josh Joris signait à Langnau, il serait centre de première ligne. Oui. À Genève, il est centre de quatrième ligne, mais la quatrième ligne, avec Bertadja qui n'est pas inintéressant dessus, quelle quatrième ligne du côté de Genève Servette ?
Ouais, alors je pense qu'il a tout dit, Benjamin Antonetti, en disant que c'était un luxe d'avoir. Quand on est allé chercher Josh Joris, je pense pas que c'était dans l'optique de le mettre en quatrième ligne un an et demi plus tard. Et quand il est revenu en Suisse, Josh Joris, pour ceux qui s'en rappellent, c'était quand même un joueur qui était très convoité, notamment par Jean-Yves Servette qui le voulait déjà avant qu'il signe à Lausanne. C'est pas le profil de joueur que tu vas chercher de prime abord pour le mettre en quatrième ligne. Puis finalement, l'effectif se construit. On voit les qualités de Joris sur la glace. En plus, il a l'air d'accepter ce rôle. En tout cas, à voir ce qu'il dégage comme ça, on a l'impression qu'il s'éclate. En tout cas, c'est ce que son langage corporel dit, à mon avis. Donc oui, je suis assez d'accord que c'est une grosse satisfaction. Il met un très joli but là sur l'assist de Vatanen à Ambry, ouais. Là, cette reprise directe, ce qui me permet du coup de moi donner mon coup de cœur du début de saison, c'est Vatanen.
C'est vrai. Il a connu un premier match poussif, un premier week-end poussif Davos-Bienne.
Voilà,
après,
il a juste fallu se mettre en jambe. Alors depuis, évidemment que le move qu'il fait hier, donc l'assist sur l'égalisation d'Artikainen, il est exceptionnel ce mouvement. Alors, les plus mauvaises langues diront peut-être que c'est la défense de Langnau en face, que si c'est une vraie défense avec des gros guillemets, peut-être qu'il n'arrive pas. Peu importe, finalement, il l'a fait au moment où il a pu le faire. Et on ne va pas lui demander de le faire contre d'autres.
Finalement, ça compte pas comme un demi-but.
C'est un peu facile de dire oui, mais si c'était une autre équipe. Ouais, en fait, c'était pas une autre équipe, donc ça tombe bien. Mais sinon, Vatanen, défensivement, offensivement, rien à reprocher. Autant l'année passée, on a pu dire. Que par moment, ça serait bien qu'il défende aussi un petit peu, parce qu'on savait qu'il pouvait amener offensivement, mais qu'il avait plus de mal défensivement par moment. Mais alors cette saison, pour l'instant, gros gros début, et j'espère que ça va continuer comme ça, parce qu'avec un Vatanen à ce niveau, avec un Temerles à son niveau habituel. Kate Merlès, ça donne déjà. Et puis on parle même pas des autres qui tiennent bien la route aussi pour l'instant. Donc, mais voilà, s'il y avait un nom à ressortir pour moi, effectivement, Joris devant et Vatanen derrière.
C'est vrai. Vatanen, qui est le deuxième joueur le plus utilisé du Genève Servette, après évidemment Henrik Tømmernes. Hein, Tømmernes qui est à 24 minutes 47 en moyenne de temps de jeu et Vatanen à 22 minutes 52. Et pour revenir sur Josh Joris, c'est une quatrième ligne. Je reviens un peu là-dessus, mais la quatrième ligne du Genève Servette n'est pas une quatrième ligne comme on a pu voir il y a quelques années qui ne joue pas ou qui joue peu. Joris, il est quand même à 14 minutes de temps de jeu en moyenne, donc il y a des fois moins, des fois plus. Mais on a vraiment, et ça, c'est pour moi un gros point positif aussi cette année. On s'attendait peut-être à voir beaucoup Teemu Artikainen, Linus Amark et Richard, cette ligne ensemble, en se disant dans les moments décisifs elle va rentrer. Finalement, moi j'aime beaucoup le tournus des lignes. On voit vraiment tout le temps les quatre lignes qui tournent. Après, le 13e attaquant, c'est une autre question, mais j'aime beaucoup ce tournus. Et quand je vois qu'en début de saison, même dans les matchs compliqués, même dans les moments où c'est un peu serré, on a la quatrième ligne qui arrive ou la troisième ligne, je me dis que finalement Genève Servette va pas arriver cramé en playoff.
Ouais, ça c'est le gros avantage de pouvoir répartir un peu ses temps de jeu. Alors, Joris, en plus, il a cette qualité qui fait qu'il peut, comme à Bienne, pendant le dernier tiers en tout cas, remplacer Tanner Richard sur la première ligne. Yann Cadieu l'avait dit, Joris c'est un joueur qui va beaucoup plus directement au but, alors que Richard est plutôt un faiseur de jeu. Donc Yann Cadieu peut avoir cette chance d'inverser les rôles en cours de match, en fonction de la physionomie de ce match. Donc Joris, pour ça, il est super important, parce qu'il est polyvalent. C'est pas uniquement un centre de quatrième ligne qui s'est, entre guillemets, que gagner des engagements et être un centre défensif, il sait aussi être un centre d'une première ligne. Donc cette variété qui peut amener dans le jeu, elle est précieuse. Et la répartition des temps de jeu, c'est quelque chose sur laquelle on savait qu'on voulait avoir un œil, parce que Yann Cadieu l'avait laissé entendre qu'il n'avait pas envie d'une première ligne à 27 minutes. Alors les attaquants, c'est un peu beaucoup 27, mais même à 23, 24 minutes en permanence, et puis une quatrième ligne qui ne joue pas. Parce que quand tu as un effectif comme celui-là, tu peux pas te permettre de faire jouer ta quatrième ligne 2 minutes par match, 3 minutes par match. Là, Josh Joris et Bertadja, ils sont pas venus à Genève pour jouer 3-4 minutes. Par contre, si même en quatrième ligne, 3-4ème ligne, ils arrivent à avoir 10-12 minutes de jeu, un peu plus selon les soirs, un peu moins selon les soirs, je pense que ça va. Tant que les choses vont bien, ça va contenter tout le monde. Après, s'ils commencent à avoir du tisacro, ça sera peut-être différent. Mais tant que l'équipe gagne, tant que l'équipe fait ses points, je pense que tout le monde est capable d'accepter un temps de jeu un peu plus petit. D'ailleurs, c'est la discussion qu'on avait eue avec Elliot Berton. Lui, il avait parlé pour son cas personnel. Mais je pense que c'est le cas pour les autres joueurs aussi. Ils sont prêts à accepter de se mettre un peu en retrait si c'est pour le bien de l'équipe.
Bon, Elliot Berton, il a fait deux shifts.
Ouais, alors après, voilà.
Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, tous les joueurs qui ont joué pour Genève Servette, donc il y en a 21. Sur le Kiyonu de Rungs, je le compte pas comme joueur ayant joué parce qu'il a jamais griffé la glace. Mais il y en a, sur les 21, il y en a 17 qui sont à plus de 10 minutes de moyenne. Et on peut même ajouter Benjamin Antonetti qui est à 9 minutes 42. Donc on a 18 joueurs qui sont à un tout petit peu moins 10 minutes ou même plus de 10 minutes. Et ça se voit aussi au niveau des pointeurs. Je sais que Genève Servette, je vais directement sortir la stat là parce que je l'ai sous les yeux. Mais Genève Servette est une des équipes qui a je crois 17 ou 18 pointeurs différents depuis le début de saison. Alors qu'on a joué 6 matchs, qui prouve aussi que les joueurs jouent plus et qu'ils le rendent bien aussi à leur coach.
Ouais, c'est ça. Et on l'avait dit que le danger pourrait venir de partout cette saison. En ayant déjà 18 joueurs qui ont fait des points sur 20 alignés, c'est quand même la preuve justement que c'était pas que nos espoirs, on va dire.
17 pointeurs différents.
Voilà, 17 pointeurs. Après 6 journées, 17 pointeurs sur 20 buts. Donc sur 20 buts marqués, il y a déjà 17 joueurs différents qui ont fait des points.
Ouais, il y en a 11 différents qui ont marqué. Sur 20 buts, on a 11 joueurs différents.
Quand on disait que le danger pouvait venir de partout, il va y avoir des soirs où ce danger va venir de la quatrième ligne parce que Joris, Bertadja, Antonetti savent aussi marquer des buts. En tout cas, ont aussi la qualité de le faire. Alors, ils vont pas en mettre 15, mais sur certains matchs, c'est eux qui vont tirer l'équipe de la gonf. Sur d'autres matchs, c'est les artistes qu'on connaît qui vont tirer l'équipe vers le haut. Mais c'est ce que Genève Servette a cherché à faire, et c'est ce que Genève Servette a manifestement réussi à faire, c'est de construire un effectif qui peut amener le danger sur chacune de ces quatre lignes.
Ouais, et parmi les 11 buteurs, il y a notamment Marco Morer. Donc quand tu dis que le danger peut venir vraiment de partout, allez demander à Juvonen, le gardien d'Ambrie, il s'en souviendra.
Ouais, effectivement. Et en cas de le premier game winning goal sous le maillot genevois de Marco Morer, oui, mais on nous a soufflé la stat, c'est pas moi qui l'ai sorti celle-là.
Non, effectivement. Mais Marco Morer aussi, alors on va pas faire un focus sur tous les joueurs, mais on l'a beaucoup critiqué.
Non, c'est pas vrai.
Mais il fait défensivement un très bon début de saison, et franchement, on était un peu critique au moment de sa prolongation. Quand je vois le début de saison qu'il fait, à nouveau, on a joué que 6 matchs, mais je suis très content qu'il soit resté où Genève Servette.
Ouais, et puis il manque aussi. Alors oui.
Et il complète parfaitement Vatanen.
Il complète Vatanen quand un des vélités offensifs, c'est en principe pas Marco Morer qui va en avoir. Donc, note qu'il a marqué à Ambrie en étant en position d'attaquant. Oui. Mais donc, en règle générale, c'est plutôt Vatanen le pan offensif de cette ligne. Puis il manque toujours Arnaud Jacquemet aussi dans cette défense qui fonctionne déjà bien. et qui est pour l'instant encore amputé d'un joueur. Alors même si, sans lui manquer de respect, Arnaud Jacquemet est gentiment plus vers la fin de sa carrière que vers le début, mais ça reste quand même un joueur confirmé de Liga qui, pour l'instant, ne peut pas être aligné parce qu'il est blessé. Et ses défenses tiennent déjà la route malgré ça. Donc c'est plutôt positif. Et pour l'instant, il n'y a pas... Pour moi, défensivement, il n'y a pas de déception.
Et dans les points négatifs et dans les points positifs, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, mais pour moi, c'est les deux. Il y a un aspect positif, c'est Robert Maier. Et un point, je ne vais pas dire négatif, mais plutôt inquiétant, c'est Gauthier Descloux.
Ouais, complètement d'accord
Robert
avec
Maier
ça.
Robert Maier qui fait un très bon début de saison. Hein, j'ai ses stats tous les yeux. Il est à 91,8% d'arrêt. Ce n'est pas flamboyant, mais il tient son équipe il tient largement son équipe hors de l'eau. Et puis, bah voilà, Gauthier Descloux, ce qui est sorti blessé après avoir disputé un match et un tiers. Est-ce que ça va tenir ou pas? Hier soir, il était de retour à Langnau en tant que gardien remplaçant, ce qui veut dire qu'il est apte à jouer. Mais voilà, c'est quand même inquiétant. On sait au moins que cette fois, il y a un vrai gardien pour le remplacer, qui est Robert Maier et qui fait ça très bien. Mais de l'autre côté, je suis quand même inquiet pour Gauthier Descloux, qui il le sait, je pense, hein, qui doit faire quelque chose s'il veut pouvoir continuer sa carrière sur plusieurs années.
Ouais, alors pour Robert Maier, oui, c'est vrai qu'il tient bien la route. Alors on a vu à Ambry, il a une relance un peu compliquée, un peu pas hasardeuse, mais risquée, on va dire, qui finit en but. Heureusement, il y a hors-jeu, donc du coup, le but est annulé. Sur les deux buts qu'il prend Ambry, en tout cas, il y en a un sur lequel il est clairement coupable et l'autre sur lequel on a l'impression qu'il est
pas tout à fait blanc, on va dire. Ouais, ouais.
Mais après, on va pas lui jeter trop la pierre non plus. Il remplace très bien Gauthier Descloux dans les buts pour l'instant. Et hormis son match à Ambry, je crois pas qu'on puisse lui reprocher grand chose. Après,
non, bah, Zoug notamment, il a été impérial.
Il a été excellent à Zoug. Puis après, ça reste Robert Maier, on le connaît, hein, avec son style de jeu, avec ses sorties des fois qui nous font peur. Mais ça fait partie du package. Par contre, je suis d'accord avec toi, avec Gauthier Descloux, c'est que on connaît son talent, sur ce qu'il a joué, on a vu que et le niveau, il l'avait toujours. Par contre, sa fragilité physique fait vraiment peur, parce que là, on a joué, il s'est blessé après le deuxième...
Il a joué à Davos, il a joué contre Davos, pas à Bienne, et après et un tiers à Zoug, voilà.
Donc après deux matchs dans le championnat, alors, on ne sait pas ce qu'il a exactement, mais on peut supposer que c'est une blessure qui traîne et qui se réveille de temps à autre,
aux adducteurs.
Et qui le redérange. Les adducteurs, on sait à quel point c'est sollicité pour un cueilleur, a fortiori pour un gardien. Au-delà de la saison de Genève Servette, moi j'ai surtout peur pour lui, tout court, en tant qu'humain en fait, avant même de passer au joueur, parce qu'il est encore jeune, il a déjà des problèmes physiques graves, en tout cas, nous on a ça, je pense qu'on ne marche plus, lui il peut s'en sortir parce que c'est un sportif d'élite et qu'il a l'entraînement qui va avec, avant même de penser au gardien, je pense à l'humain. Puis si je pense au gardien, je me dis ça va quand même être compliqué pour lui d'avoir une carrière longue en ayant des problèmes tels qu'il les a déjà maintenant.
Ou alors on part sur une situation qui est totalement différente, où plutôt que d'avoir deux numéros 1, on a Robert Maier en numéro 1 sûr et Gauthier Descloux qui peut jouer un match de temps en temps. On changerait un peu de paradigme, mais on peut même imaginer Robert Maier faire deux tiers, Gauthier Descloux un tiers des matchs. Là, peut-être que ça tiendrait, mais de nouveau, on connaît rien de la blessure de Gauthier Descloux exactement.
Absolument, ouais,
on ne sait pas comment ça a été traité, on spécule totalement. Et si ça se trouve, ça va très bien. C'était une petite alerte. Ils ont préféré ne pas prendre de risques et puis il va nous faire mentir et jouer encore 30 matchs cette saison et Robert Maier prendre le reste.
Et c'est tout ce qu'on lui souhaite.
C'est tout ce qu'on souhaite, ouais.
Mais après, effectivement, imagine. Alors là, c'est spéculation pure, hein, mais imaginons que la blessure de Gauthier Descloux fasse en sorte que Robert Maier prenne un peu la place de numéro 1. Non pas parce qu'il est meilleur, mais simplement parce qu'il est plus apte physiquement à enchaîner les matchs. C'est pas complètement idiot de penser que Robert Maier peut nous amener au bout. Dans le sens, c'est pas parce que Gauthier Descloux est blessé et que c'est Robert Maier qui joue qu'on se dit finalement les zombies sont de titre, on va pas pouvoir y aller.
C'est ça.
Robert Maier, c'est pas Federico Tamo, sans manquer de respect à Tamo, mais là on avait vraiment l'exemple
où jamais Genève fera une finale avec Monzato.
Jamais. Ou alors pour prendre un exemple plus proche de nous, Connor Hughes. Ouais. Tu peux pas. Clairement, je pense pas que Fribourg puisse être champion avec Connor Hughes dans les buts. Ils ont un numéro 1 qui est Reto Berra, puis un numéro vraiment 2 qui va jouer 10 matchs dans la saison. À Genève, on l'a dit, c'était une des forces. Il y a deux gardiens qui peuvent se partager les matchs. Si on doit inverser un petit peu ce rôle de 1A, 1B, puis finalement que le B devienne le A, je pense que ça devrait pas poser trop de problèmes. En tout cas, j'imagine pas que ça soit ça la cause de la perte de Genève Servette cette saison. C'est hyper, il doit y avoir.
Ouais, effectivement. Et je pense que voilà, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça tienne finalement pour Gauthier Descloux.
Voilà. Exactement. Tout ça, on dit avec un seul espoir, c'est que Gauthier Descloux se rétablisse au plus vite et puis qu'on se pose plus de questions à l'avenir.
Ouais, exactement. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour des points forts, points faibles du Genève Servette, ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît un peu plus après 6 matchs. Rendez-vous dans 6 matchs.
Bah même avant, parce qu'il n'y en aura que 3 de jouer, non 2 de jouer d'ici qu'on se revoie la semaine prochaine. Oui. D'ailleurs, un week-end qui va être un bon test. On va finir peut-être sur le programme qui nous attend. Oui, bah, donc, ouais. Le match contre Fribourg vendredi soir, le match à Lausanne samedi soir. Deux derbies, donc des matchs chargés d'émotions toujours.
Et des équipes qu'on n'arrive pas à jauger. Personnellement, j'arrive pas à savoir dans quelle forme Fribourg va arriver au Vernet.
Non, effectivement, parce que Fribourg, alors, si on écoute un peu ce qui se dit ailleurs, des gens qui les suivent plus que nous au quotidien, on a l'impression que c'est pas encore tout à fait ça. Mais par contre, hier, ils en mettent 9. Mais à Kloten, qui a l'air complètement dépassé aussi en ce début de saison par moment. Donc, quelle est la valeur de ce 9-1 face à Kloten? On verra vendredi comment Fribourg arrive au Vernet.
Et le joli costume du meilleur fribourgeois.
Ouais, en plus, voilà, exactement. Ouais,
allez voir, c'est notre confrère du Blic, Corimo, qui a sorti ça. Ouais. Apparemment, le meilleur fribourgeois de la soirée doit venir déguisé aux interviews dans un costume de dragon rouge.
Voilà. Et d'ailleurs, il a dit, je ne sais pas pourquoi je suis habillé comme ça. Il a pas l'air d'avoir compris pourquoi, mais il s'est retrouvé à l'interview comme ça. C'est assez drôle. Et le lendemain à Lausanne, alors Lausanne qui a, en tout cas sur les deux derniers matchs, j'ai même regardé Lausanne-Zurich dimanche soir. Effectivement, c'était pas brillant, on va dire. C'était pas catastrophique, mais c'était pas brillant. Ils en ont pris 4 contre Rapi à la maison aussi. Donc peut-être Lausanne pas super en forme, mais on sait qu'affronter une équipe qui n'est pas super en forme lors d'un derby, ça peut aussi lui donner ce supplément d'âme qui fait que. Donc quoi qu'il en soit, je pense gros week-end qui nous attend.
Ouais, gros week-end que vous pourrez suivre évidemment en direct en intégralité sur Radio Lac, avec toujours la prise d'antenne. 15 minutes avant le coup d'envoi de la rencontre, on sera d'ailleurs ensemble samedi soir à Lausanne.
Absolument, ouais.
Pour ton premier commentaire à la Vaudoise Arena.
Oui, c'est ça.
C'est ça, hein, t'as jamais connu la place de commentateur. Non. Toujours des très bons souvenirs, les commentaires à la Vaudoise Arena.
On en reparlera la semaine prochaine.
On en parlera la semaine prochaine, puisque je te propose de conclure là-dessus.
Oui, je pense que comme on a tout dit, enfin, tout dit non, mais on a dit assez, on va dire, pour pas vous perdre en cours de route.
C'est ça, et n'oubliez pas que le podcast 1905 est à retrouver en podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Vous nous retrouvez partout où vous voulez nous retrouver. Vous pouvez nous écouter partout où vous voulez nous écouter, c'est-à-dire sur radiolac.ch, sur Spotify, votre plateforme de streaming préférée. Merci beaucoup, Nico, pour ce premier épisode pendant la saison, puisque les 3 premiers étaient enregistrés avant. Merci beaucoup pour ce premier épisode, c'est toujours un plaisir.
Plaisir partagé et on peut le dire, cette fois on est reparti pour une saison normalement, sauf problème de planning ou autre.
Mais on espère la plus longue possible.
La plus longue possible et en principe on sera là tous les jeudis.
Exactement, tous les jeudis à 16h. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. À la prochaine, bye bye.